Les Années-Lumière, édition du 23 mai 2010. Depuis Paris, Lausanne, Liège et Montréal, les radios francophones publiques vous présentent la biodiversité dans tous ses états. Bonjour, ici Yannick Villedieu à Montréal où j'anime Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Je suis en compagnie, mais ils et elles sont dans leurs studios respectifs, dans leurs pays respectifs, de mes collègues des émissions scientifiques. Alors Jacques Olivier à Liège où vous animez Semences de curieux pour la RTBF, la radio-télévision belge de la communauté française. Bonjour Jacques.
Bonjour Yannick, bonjour à tous et à toutes.
À Paris, Mathieu Vidard, animateur de la Tête au carré sur France Inter. Bonjour Mathieu.
Bonjour Yannick et bonjour à tous.
Et à Lausanne, Nancy Ypsilantis, animatrice du magazine Impatience de la radio-télévision suisse. Bonjour Nancy.
Bonjour Yannick, bonsoir à tous.
Et si nous sommes réunis pour cette émission spéciale, c'est que 2010 est une année spéciale, l'année internationale de la biodiversité, et que cette semaine est une semaine particulière parce que le 22 mai marque chaque année la Journée mondiale de la biodiversité. La biodiversité ou la diversité du monde vivant est soumise à des menaces sans précédent dans l'histoire humaine. Les scientifiques le disent et le montrent, les citoyens le sentent ou le devinent. Et l'ONU a publié il y a quelques jours un rapport alarmant dans lequel on évoque, et je cite, une perte massive de biodiversité, et cela partout sur la planète. Alors au cours de cette émission spéciale, chacune des quatre radios va présenter un reportage sur un aspect de cet enjeu majeur, qu'est la perte ou la protection de la biodiversité. On écoutera successivement les reportages de Belgique, de France, de Suisse et du Canada. Et pour discuter de ces reportages et de la biodiversité en général, chacune des quatre radios a invité en studio un expert de la question et je laisse à mes collègues le soin de présenter le leur. Et je commence par vous, Jacques Olivier, à la radio-télévision belge de la communauté française.
Eh bien, mon invité, c'est Étienne Brancard. Il s'occupe de ce que l'on appelle la plateforme belge de la biodiversité. Alors, Étienne, présentez-nous ce que c'est cette plateforme. En fait, vous faites quoi ?
Bien, bonsoir à tous. Cette plateforme, en fait, c'est une interface dynamique entre la recherche et toute une palette d'utilisateurs de la recherche, est financée par la politique scientifique fédérale. Et l'idée, c'est de sortir un petit peu les résultats de la recherche des publications scientifiques et des cartons pour les faire connaître aux décideurs, d'un côté, et de l'autre, de relayer vers les scientifiques quelles sont les priorités des décideurs. Donc on veut mettre en place une recherche qui vient vraiment en appui à la décision.
Eh bien, je m'en vais maintenant à Paris avec Mathieu Vidard et La Tête au carré. Votre invité, Mathieu.
Eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter Pierre-Henri Gouillon, qui est biologiste, ingénieur et agronome, spécialisé en sciences de l'évolution et plus particulièrement en génétique, en botanique et en écologie. Bonjour Pierre-Henri Gouillon.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle, à l'AgroParisTech et à Sciences Po. C'est quoi l'AgroParisTech ?
L'AgroParisTech, ça s'appelait l'Agro, c'est une des grandes écoles d'ingénieurs qu'on a en France. C'est celle qui s'occupe de biologie.
Alors, quels sont vos thèmes de prédilection, Pierre-Henri Gouillon ? J'aurais dû vous présenter d'ailleurs comme biologiste évolutionniste.
Oui, mon thème de prédilection, effectivement, c'est d'essayer de comprendre l'évolution, de comprendre comment on en est arrivé à la situation actuelle des êtres vivants, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi on a un nez au milieu de la figure et pourquoi d'autres n'en ont pas. Et du coup, de comprendre la diversité des formes vivantes qu'a créée l'évolution.
On vous retrouve dans quelques instants, Pierre-Henri Gouillon.
Alors, merci Paris. Je me tourne maintenant vers Lausanne avec la radio-télévision suisse Nancy Ypsilantis, votre invité.
Notre invité, c'est Jean-Christophe Vier, vétérinaire, biologiste, directeur adjoint du programme pour les espèces de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est basée à Gland, c'est tout près de Genève. Jean-Christophe Vier, bonjour, bienvenue. C'est vous qui établissez, enfin c'est l'IUCN qui établit la liste rouge des espèces menacées. Et cette liste, j'ose même pas vous poser cette question, comment se porte-elle ?
Elle grandit au fil du temps, et plus on regarde les espèces, plus on s'aperçoit qu'elles sont menacées. Alors nous, je travaille sur la partie la plus visible de la biodiversité, celle que les gens comprennent le plus facilement. Ils arrivent à différencier les espèces les unes des autres. Et puis dans la biodiversité, il y a des choses beaucoup plus complexes qui sont plus difficiles à faire comprendre aux décideurs et au grand public. Donc c'est pour ça que je pense que communiquer et travailler sur les espèces, ça reste quand même toujours une très bonne approche qu'on utilise autant qu'on peut pour attirer l'attention sur les problèmes du vivant.
On vous retrouve tout à l'heure, Jean-Christophe Avier.
Oui, merci. Donc pour Radio-Canada, notre invité est le biologiste Jacques Prescott, qui a une longue feuille de route dans le domaine de la biodiversité, notamment au ministère de l'Environnement du Québec, au commissaire à l'Environnement du Canada. Il a publié de nombreux articles et il est l'instigateur d'une méthode de protection de la biodiversité qui l'a amené à faire de multiples missions scientifiques un peu partout dans le monde. Bonjour Jacques Prescott.
Oui, bonjour.
Alors Jacques Prescott, donc cette approche de la biodiversité que vous avez développée quand vous étiez au gouvernement du Québec, ça a vraiment eu un retentissement international important. Hein?
Oui, un des enjeux majeurs de la protection de la biodiversité consiste à s'assurer que tous les secteurs de la société, des secteurs économiques, que ce soit le milieu industriel, le milieu agricole, le secteur minier, le secteur du développement urbain. Mm-hmm. Tous ces secteurs-là ont un rôle à jouer.
Donc, il n'y a pas que le ministère de l'Environnement, au fond, qui doit
Donc,
être...
il s'agissait de trouver une façon de promouvoir l'action concertée entre tous ces ministères-là et le ministère de l'Environnement responsable de la stratégie nationale de biodiversité. On y est parvenu par un dialogue, par aussi une façon d'expliquer à chacun de ces secteurs le rôle qu'ils peuvent jouer, justement.
Alors, et vous avez fait école un peu partout au Canada et dans le monde, hein,
oui,
des exemples.
Nous avons publié pour les Nations Unies, pour le PNUD, nous avons publié...
Quel programme des Nations Unies pour le développement, oui.
Nous avons publié cette méthode de planification de la biodiversité qui ensuite a été utilisée par plusieurs pays et puis j'ai eu l'occasion moi-même d'accompagner certains gouvernements nationaux.
Et quand
vous
dites plusieurs pays, il y a des grands pays, la Chine, vous m'aviez dit.
Mais oui. Par exemple, on a travaillé au Cambodge, on a travaillé au Congo, on a fait la stratégie de biodiversité du Congo. Et au Paraguay, on a utilisé aussi cette approche avec beaucoup de bonheur.
Ça fait plaisir de voir qu'on a un impact sur le terrain. Alors, je vous remercie, Jacques Prescott. On va continuer l'émission. Mais d'abord, je vais passer l'antenne à Liège et à Jacques Olivier de la radio-télévision belge de la communauté française. Son émission s'appelle « Semences de curieux ».
Semences de curieux. Jacques Olivier.
Alors, ça risque évidemment de vous faire sourire en France, en Suisse ou au Canada, mais je vous emmène sur le toit de la Belgique. Et en fait, on est un peu moins de 700 mètres. C'est ce qu'on appelle le plateau des Hautes Fagnes. Et d'ailleurs, un peu à l'instigation de mon invité Étienne Brancard, je suis allé voir ce qu'on y faisait. On y mène un projet LIFE, Étienne. De quoi s'agit-il en général? C'est un des projets que l'on mène en Belgique.
Hein. Voilà, c'est un programme qui est cofinancé par l'Union européenne, la Commission européenne, DG Environnement, et qui vise à restaurer ou à conserver des milieux naturels, en particulier ce qu'on appelle des habitats et des espèces d'intérêt communautaire qui figurent dans la directive sur les habitats.
Alors, je dois préciser qu'on y voit des paysages superbes, sauf que le jour où nous y sommes allés, on était dans le stratus, on voyait à peu près le bout de ses pieds, autant dire que l'activité dans ces hautes fagnes n'était pas exceptionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, je vous emmène à présent au centre nature de Botrange, où nous avons rencontré tout de même pas mal de monde, et notamment Alain Langer qui dirige ce centre nature.
Je crois que les gens qui viennent ici viennent évidemment pour la nature, pour des paysages ouverts, pour des grands paysages qui sont uniques quasi en Belgique. Il y a évidemment d'autres zones en Belgique où il y a aussi des fagnes, mais avec des paysages tels qu'on les a ici, la fagne wallonne par exemple, c'est quand même unique. C'est vraiment la nature qui prend ses droits étant donné que c'est une réserve naturelle. Il s'agit d'une zone où le sol est constitué de tourbe. Et donc, à ce sol est alors associée toute une flore spécifique. Il s'ensuit évidemment aussi une faune spécifique. Et les gens viennent évidemment aussi pour découvrir ces spécificités, hein, que ce soit plantes carnivores, par exemple, ou le tétralyre. C'est quand même des espèces très spécifiques du haut plateau.
André Tunus a été forestier. Il est exploitant sylvicole. C'est un homme de terrain et du terroir.
Avant l'arrivée de l'homme, la fagne était boisée, hein. Ce n'était pas un milieu ouvert, c'était boisé de différentes espèces feuillues, bien entendu, même par endroits, peu de pain sylvestre. Hein. Très peu ici, mais il y en avait déjà. Mais alors, ce qui l'a dégradé, c'est l'arrivée de l'homme qui a servi ce que la nature lui donnait pour vivre. Et les milieux ouverts se sont constitués par les pratiques agropastorales, parce que l'homme avait besoin de ces espaces pour y installer ses troupeaux et compagnie. Et pour profiter de ce que la nature lui donnait. Donc ça s'est dégradé au dur 100 ans, mais ça a été beaucoup plus que 100 ans, c'est des siècles. Hein. À partir de 1864, je crois que les premiers épiciers sont arrivés ici, qu'on a planté, c'est les Allemands, puisque nous étions Allemands à l'époque, prussiens plutôt. Eh bien, ça a été une mise en valeur, on essayait d'apporter un plus, on essayait de faire, au point de vue économique, apporter une essence qui apportait une matière, qui donnait du volume. Donc c'est l'homme qui a voulu tout cela, c'est une évolution de l'homme. Après la guerre, ben, l'État belge à l'époque a donné des subsides aux communes justement pour mettre en valeur tout ce terrain culte qui était délaissé par les pratiques agropastorales, parce que jusqu'après la guerre, les fagnes servaient au village à laisser paître les troupeaux, à les prendre du foin, les prendre des myrtilles, de la tourbe, et ils vivaient de la fagne. Après, ben, étant donné que l'économie s'est diversifiée, on a récupéré les fagnes et c'est là qu'on a fait les grands boisements d'après la guerre. Ça veut dire l'assainissement des fagnes, la confection de mottes, mais tout ça se faisait à la main. Ça employait énormément de main d'œuvre et grâce à cela, les villages avoisinant la fagne se sont très fort développés. Par la suite, alors, par le boisement des fagnes, entre autres, et par le travail au bois, les gens, les personnes avoisinant la fagne, donc, se sont diversifiées. Ils avaient une petite ferme de 4-5 vaches ou 6 vaches, et à côté, le mari allait travailler au bois. Donc, il y avait un apport supplémentaire d'argent, et de ce fait, ils ont pu permettre à leurs enfants de faire des études et d'accéder à d'autres professions.
Donc là, on rentre dans la plantation.
Maïté Lout est agronome, elle est une des responsables du projet LIFE dans les Hauts-de-Fagne.
Notre projet LIFE a commencé en 2007 et il a pour objectif spécifique de restaurer les landes et les tourbières des Hauts-de-Fagne. L'objectif, c'est de restaurer 1400 hectares sur une zone de travail de 10 000 hectares. Disons, pour résumer, le siècle passé, on a voulu planter des épicéas sur ces sols tourbeux, pour essayer de rentabiliser un peu la fagne. Pour pouvoir planter ces épicéas, les gens de l'époque ont creusé tout un réseau de drains, donc ont asséché les tourbières, ont dégradé les tourbières. Et aujourd'hui, on essaye de retourner en arrière. Étant donné qu'économiquement, ça n'a pas de rentabilité, autant les rendre rentables au niveau écologique, parce qu'elles nous rendent beaucoup de services au niveau écologique. Il faut savoir que les Hauts-de-Fagne, c'est un peu le poumon vert de la Belgique, mais c'est aussi un grand réservoir d'eau. C'est ici que, en tout cas, une grande partie de la province de Liège s'approvisionne en eau. C'est aussi un énorme puits de carbone, donc les tourbières absorbent énormément de carbone. Donc voilà, elles peuvent avoir un impact sur le réchauffement climatique. Une autre action, c'est de réennoyer les tourbières qui ont été asséchées par le passé. Donc on fait des digues pour retenir l'eau, on bouche tous les drains qui ont été creusés. Et là, on arrive déjà à une soixantaine d'hectares qui ont été ennoyés. Une autre action consiste à mettre le sol à nu pour permettre à la végétation spécifique de germer. Et là, on arrive à une centaine d'hectares. Du pâturage, ça c'est aussi une des grosses actions du projet. Donc le pâturage, c'est une manière douce de restaurer le milieu. On approche 1000 moutons pour le pâturage.
Philippe Francard est un scientifique employé par la région Wallonne et c'est lui qui est l'initiateur du projet.
Les Hauts-de-Fagne, c'est quand même la région où les milieux de type tourbeux sont les plus abondants en Wallonie. C'est aussi la région où il y avait le plus d'expérience de gestion. On a d'abord fait beaucoup de tests, que ce soit dans les restaurations de Landes ou dans les restaurations de Tourbière. Et je pense que c'était le bon moment d'appliquer ça à grande échelle. Les restaurations de Landes, les résultats sont très rapides. Après 2-3 ans, on voit pas mal de germination d'espèces caractéristiques de ces milieux, et donc on voit vers quoi on va aller. Maintenant, pour arriver à des milieux plus structurés, il faut compter une dizaine d'années. Pour les milieux de Landes, les tourbières, c'est beaucoup plus lent. Il a fallu plusieurs milliers d'années pour les former. Et donc là, on a très rapidement des milieux pionniers qui s'installent. Avec l'expérience qu'on a, après une vingtaine d'années, on commence à voir une certaine succession végétale à partir de milieux très pionniers, mais on n'est pas encore arrivé à des milieux stables de tourbières. Donc là, il faut plusieurs dizaines d'années pour voir les milieux se réinstaller. Les plantes les plus typiques des tourbières, c'est quelques petites éricacées qui vivent sur le tapis de sphaigne. Je pense à la canneberge, l'andromède, la camarine noire, pour les plus caractéristiques. Alors les linaigrettes à feuilles étroites, linaigrettes vaginées. Et alors les espèces les plus caractéristiques des tourbières, ce sont les sphaignes. Ce sont des bousses qui sont capables de se gorger d'eau et de former la tourbe. Ce sont les sphaignes qui sont le principal formateur de la tourbe. Au niveau des animaux, il y a peu d'animaux tout à fait spécifiques aux tourbières. Il y a quelques papillons et libellules. Et notamment dans les espèces exclusives des milieux tourbeux, il y a quelques reliques boréaux montagnards.
Enfin, Louis Leclerc, il est botaniste, il dirige la station scientifique des Hauts-de-Fagnes que l'Université de Liège a installée il y a plus de 80 ans.
On pense que une biodiversité élevée est un indice de qualité de milieu et on se trouve précisément ici dans les Hauts-de-Fagnes, dans une région où c'est le contraire, où l'acidité du sol, l'acidité de l'eau sont telles, et c'est naturel, qu'on a une biodiversité faible. Donc les Hauts-de-Fagnes, initialement, c'était naturel, biodiversité faible signifiait qualité, signifiait des peuplements, des communautés végétales, animales vraiment exceptionnelles, par leur pauvreté. On pense que les travaux, notamment dans les projets LIFE, sont là pour augmenter ou entretenir une biodiversité élevée, qui, dans une région comme celle-ci, était en fait le fait de l'action de l'homme. Et donc l'idée du projet LIFE, ou des projets LIFE d'une façon générale, c'est de sauver ces milieux semi-naturels créés par l'homme, mais qui n'avaient pas été soumis à des engrais, par exemple, et où on a vraiment une belle biodiversité. Alors, on peut penser que la bonne façon de reconstituer des milieux naturels, c'est de laisser essayer de reconstituer la forêt primitive, où on a la place pour toutes les plantes des milieux de landes, de landes sèches et de landes humides. Et ce n'est probablement plus réalisable dans nos pays, parce que les surfaces de forêt qu'on pourrait gérer en forêt intégrale, en réserve intégrale, et qui pourrait retrouver cette diversité interne, n'existe plus, pratiquement plus. Et c'est pour cela qu'on est vraiment contraint maintenant, pour sauver les plantes de milieux ouverts, d'entretenir, si vous voulez, les milieux que l'homme a créés depuis 800 ans à peu près, et qui sont donc de toutes pièces créées par l'homme. Alors à côté de ça, évidemment, le projet LIFE fait un grand rôle dans la recréation, la restauration des tourbières. Et ça, c'est un point fondamental, parce que les tourbières, c'est vraiment le seul milieu naturel qui reste en Europe. Tous les autres ont disparu, il n'y a plus de forêts naturelles, elles ont été coupées, jardinées, plantées, on a introduit des espèces, donc à ce niveau-là, on n'a plus rien de naturel.
Voilà, Étienne Brancard, on est de retour en studio. On voit bien que ça a posé quand même au fil des siècles un problème, hein, l'affectation au fond de ces Hauts-de-Fagnes et de ces vastes espaces, hein, malgré tout.
Mais on voit en tout cas que les paysages ont considérablement évolué au cours du temps et que les priorités socio-économiques ont changé, ont modelé, transformé ces paysages. Pendant des siècles, on a eu des formes d'exploitation du territoire où finalement l'agriculture, la forêt, le pâturage, tout ça s'était fortement imbriqué. Et donc aujourd'hui, avec le recul, on se dit, ben voilà, certains projets de revalorisation économique ont bien donné, d'autres moins bien. Et dans les zones très très extensives où les arbres poussent mal, ou au moindre coup de vent, on peut voir valser par terre des centaines de troncs. Eh bien, on se dit, ben voilà, dans ces zones-là, il y a un potentiel nature qui est encore extraordinaire. On a la tourbe dans le sol qui parfois a été un peu asséchée. On va essayer de remonter la nappe phréatique et de restaurer une tourbière dynamique, de recréer une éponge qui fonctionne pour faire de la nature, mais pas que, Donc on va aussi, en réactivant, revivifiant cette tourbière, on va lui rendre son rôle de réservoir d'eau potable, de puits de carbone, comme on a dit tout à l'heure. Il faut savoir que la tourbe, elle stocke 10 fois plus de carbone que les sols minéraux. Donc c'est un premier puits de carbone, on peut dire, par unité de surface au niveau européen. C'est vraiment fantastique. Et également, tout le développement touristique qui est très très important ici sur le plateau des Hauts-de-Fagne, le ski de fond en hiver, les balades en été.
Merci beaucoup Jacques-Olivier, donc à Liège, en Belgique. Alors je vais continuer avec nos experts en studio. Je vais commencer par ici Montréal, Jacques Prescott. Ce reportage là, sur les fagnes en Belgique, un territoire qui a été profondément marqué par la présence et par les activités humaines depuis des siècles, ça vous inspire quoi comme, avec votre œil de biodiversitologue, comme je l'ai dit tout à l'heure?
Je crois qu'il est bien important de savoir reconnaître la valeur des services écosystémiques qui nous sont rendus par ces divers écosystèmes. Donc la valeur économique d'une tourbière, elle va bien au-delà de la production de tourbe.
Oui.
On l'a vu, ça peut servir à la régulation des eaux, la tourbière va aussi assainir l'eau et nous fournir une meilleure eau, donc améliorer la qualité d'eau, et puis tout ça, ça a une valeur inestimable. Elle va aussi, ce projet va aussi amener des activités récréotouristiques qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Alors tout ça pour dire qu'il, pour protéger un territoire, il nous faut reconnaître les services biologiques que nous rend ce territoire et non pas seulement la valeur des ressources qu'on peut extraire de ce territoire.
Alors, je ne sais pas, en France peut-être maintenant, Monsieur Pierre-Henri Gouillon, à ce reportage belge.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est important de se rendre compte à quel point l'homme a influencé les milieux et effectivement le fait que ces tourbières restent parmi les derniers milieux dont on pourrait espérer qu'ils aient quelque chose de naturel et intéressant. Ceci dit, comme ça vient d'être montré, justement, c'est pas si naturel que ça, on est obligé de les restaurer. Et je pense qu'aujourd'hui s'ouvre vraiment quelque chose de nouveau qui est la restauration d'écosystèmes, c'est-à-dire le fait d'essayer de remettre en fonctionnement un système dont on avait tellement perturbé tous les processus qu'ils étaient plus viables.
Jean-Christophe Vier, en Suisse, cette affirmation-là, en disant les tourbières, c'est le seul environnement naturel qui reste en Europe, ça a dû vous faire sursauter. Il y a quand même pas mal de montagnes qui sont naturelles chez vous, non?
Bien sûr, mais les montagnes, vous savez, elles ont été aussi façonnées largement par l'homme.
Alors, oui, c'est vrai.
Il y a des grandes discussions parce que maintenant, la forêt gagne un petit peu les montagnes, gagne les alpages. D'ailleurs, il y a eu aussi pas mal de plantations d'épicéas, même dans les montagnes du Jura vaudois, avec quelques petits problèmes. Maintenant, on se dit peut-être qu'on aurait dû laisser faire la nature. Ça se fait plus trop, on laisse faire des régénérations naturelles.
Merci beaucoup, Jean-Christophe Vier, à Lausanne. Alors, je passe maintenant l'antenne à Paris, à Mathieu Vidard de France Inter et à la tête au carré.
La pure connaissance scientifique.
C'est la tête au carré.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Pierre-Henri Gouillon, avant d'écouter notre reportage et de partir en Méditerranée, en Corse, c'est vrai que quand on prépare un sujet sur la biodiversité, on associe quasi systématiquement ce terme à quelque chose de péjoratif, de nuisible, voire de catastrophiste. Est-ce qu'on peut quand même envisager ce terme autrement ?
La biodiversité ? Oh ben j'espère qu'on peut l'envisager autrement.
Il est très marqué aujourd'hui quand même.
Ce qui est catastrophique, c'est la baisse de biodiversité qu'on observe. Et une des difficultés d'ailleurs qu'il y a, c'est que ce terme recouvre des réalités biologiques très variées. Je pense qu'on en reparlera. Mais effectivement, la première chose, ça serait d'arriver à avoir une vision de ce que c'est que la biodiversité, en voyant bien qu'il n'y a pas deux êtres vivants qui sont semblables totalement, et que tout ça, ça fait une diversité absolument faramineuse. C'est une diversité qui est en constant changement, donc il n'y a pas à conserver les formes telles qu'elles sont actuellement. Ça serait idiot. Ce qu'on peut conserver, c'est la diversité dans ces processus et dans ces différences. Oui.
La crise que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce qui la caractérise par rapport à toutes celles que la Terre a connues quand même depuis quelques milliards d'années?
Je pense que ce qui la caractérise, c'est qu'on est là, d'une part, et qu'on est largement responsable de la crise en question, d'autre part. C'est pas la première fois qu'une espèce en fait éteindre plein d'autres, hein, parce que tout le monde connaît les extinctions dues aux météorites et choses comme ça, mais là, c'est pas des espèces. En revanche, il y a au moins eu un cas où un groupe d'individus a fait éteindre beaucoup d'autres, c'est l'invention de la photosynthèse. Vous savez que les êtres vivants tirent leur énergie du soleil grâce, pour la plupart en tout cas, hein, grâce à la photosynthèse qui permet aux algues, aux plantes, et en particulier aux bactéries qui ont inventé la photosynthèse, que leur a piqué les autres. Hein, donc ces bactéries, quand elles sont apparues, eh bien, elles ont produit de l'oxygène. Et l'oxygène, à l'époque, c'était un poison violent. Ça a tué du monde. Allez. Donc, les premiers changements globaux et les extinctions globales dues à un changement global dû à une espèce, c'était l'arrivée de l'oxygène à cause de la photosynthèse. Simplement, les algues en question, elles s'en foutaient. Alors que nous, on est capable de se rendre compte de ce qu'on fait et de prédire que ça ne va pas être rigolo si ça continue. Bien sûr que c'est déjà arrivé. Mais simplement, on n'était pas là et heureusement. Donc, c'est pas parce que quelque chose est déjà arrivé que c'est pas grave.
Alors, je vous propose de partir dans les eaux bleues de la Corse pour évoquer notre thème de la biodiversité, et plus précisément dans la baie de Calvi. Alors, c'est un lieu magique en Méditerranée, au bout d'une presqu'île sauvage protégée, où se trouve la Staréso, c'est la station de recherche océanographique et sous-marine. Et dans ce lieu dévolu à la recherche scientifique, qui appartient à l'Université de Liège, des chercheurs travaillent sur la biodiversité propre à la Méditerranée. Il y a quelques jours, notre reporter Stéphane Combe s'y est rendu. Il a rencontré Pierre Lejeune, directeur de la Staréso, et il a suivi aussi bien sur terre, sur mer et sous l'eau, vous allez l'entendre, Jean-Henri Heck, un chercheur spécialiste des méduses. Alors préparez vos masques et vos palmes, la tête au carré vous invite à plonger dans la biodiversité sous-marine de l'île de Beauté.
C'est chaud, hein ? C'est orageux en fait. Qu'est-ce qu'on voit là-bas au fond ? C'est la citadelle de Calvi, hein, c'est le centre-ville. C'est la citadelle génoise qui est à l'origine de la ville. Hein. Donc l'histoire de ce lieu est ancienne.
Et on voit que l'eau est particulièrement translucide, transparente.
Ouais.
Ici, c'est particulièrement protégé.
Ce secteur autour du centre est particulièrement intéressant parce qu'on est vraiment typique de la côte ouest de la Corse. Et finalement, lorsque vous quittez la Terre à Staréso et que vous naviguez 10 minutes en Zodiac, vous tombez sur des fonds de plusieurs centaines de mètres. Donc des fonds dits océaniques. On est devant un océan à 10 minutes, un quart d'heure du laboratoire.
Et alors à 30 secondes, même pas, du laboratoire, on voit déjà donc des poissons et beaucoup d'algues vertes.
C'est pas du tout une algue. Hein. La posidonie, c'est une herbe, une plante marine qui a vécu sur Terre par le passé et qui est retournée au milieu marin secondairement. La Méditerranée est une mer de manière générale relativement pauvre en quantité de vie, mais extrêmement riche en biodiversité. Pour vous donner une idée, la mer Méditerranée, ça représente, je crois, à peu près 0,7% de l'océan mondial, donc une toute petite superficie. Mais ça peut représenter, l'ensemble des espèces qu'on peut trouver sur la Méditerranée peut représenter jusqu'à 12-13%, voire 18% pour les plantes, de la biodiversité mondiale. Donc vous vous rendez compte que dans 0,7% des surfaces océaniques, on peut se retrouver, pour les plantes par exemple, avec 18% de la biodiversité mondiale océanique. Aujourd'hui, on le voit dans la région Corse, la biodiversité reste extrêmement présente. Ce que l'on va observer, ce sont des changements assez subtils. Des espèces qui n'étaient pas là et qui sont là présentes, des espèces qui remplacent d'autres. Tranquille montée des températures, mais pas très très importante. Un petit changement du niveau de l'eau, mais finalement encore relativement restreint. Et aujourd'hui, quand on se met dans l'eau à Staréso, on a plutôt l'impression que les choses vont bien. Ce qui nous fait crainte à nous, c'est ces effets de seuil qui peuvent faire qu'à un moment donné, par exemple, certaines espèces en faible effectif se mettent à disparaître d'un seul coup. Ça peut se concevoir aussi pour des écosystèmes entiers. Bon, si on prend la Posidonie que vous avez vue et qui est extrêmement florissante sur toutes les côtes de Corse, cet écosystème extrêmement important est très largement en régression sur la partie continentale de la France. Donc ça peut arriver, et à nos portes.
Tu embarques la bobine, vous tenez le bateau. Vous embarquez le filet, c'est un filet à plancton.
Il y a un goéland là, une espèce de grosse mouette qui est sur le quai.
C'est un goéland, il n'y a pas de mouette en Corse. Voilà, ils espèrent qu'on va ramener du poisson, mais il va se tromper parce que dans le filet à plancton, on ne ramène pas de poisson. On ramène que des organismes de petite taille. Attends, il va falloir se tenir parce que... Voilà, là, on se rend en mer. À l'extrémité du large de la baie de Calvi, où on a des remontées d'eau et on a un maximum de diversité planctonique. Là, je baisse un peu la vitesse et Amandine va mettre le filet à l'eau.
Alors, c'est une espèce de gros filet à papillon.
C'est un filet à papillon en fait, qui fait plus ou moins 2 mètres, 2 mètres 50 de long, auquel au bout on a attaché un espèce de bidon avec un filtre, donc ça va collecter les organismes et le surplus d'eau va pouvoir sortir.
Dans 45 secondes, on peut commencer à remonter. Voilà, donc on coupe le moteur, enfin je baisse le moteur. Amandine, malgré ses airs tout frêles, va te ressortir le filet comme un vrai vieux loup de mer. Tu rinces bien parce que je vois des petites méduses brillantes là, qui sont accrochées au filet. Voilà, nous avons terminé le prélèvement. On va rentrer au laboratoire pour regarder tout ça au microscope. Il y a 10 mètres entre le quai et le laboratoire. On est en permanence en bord de mer et on peut traiter immédiatement les échantillons. Alors ceci est un microscope sur lequel il y a une caméra vidéo et reliée à un ordinateur, ce qui nous permet de faire des films, de prendre des photos pour établir des bases de documentation.
Là, je regarde en fait l'échantillon qu'on a prélevé en mer. Et donc, je regarde les différents organismes qu'il y a dedans et je trie toutes les méduses. Elle, ici, ça doit faire 2 ou 3 mm. C'est une petite méduse.
Donc, j'en ris, en fait, des méduses, il y en a de toutes les tailles.
Et de toutes les espèces, c'est un groupe animal extrêmement abondant. Mais ces organismes sont extrêmement primitifs. Ils se nourrissent d'autres planctons. Elles choisissent dans ce milieu. Tu vois que ce milieu planctonique est un milieu extrêmement diversifié. Voici un œuf de poisson, tu vois, il y a un petit peu de tout. Et c'est là l'objet de nos études, c'est de déterminer avec précision quelle est l'alimentation spécifique de chacune de ces méduses. Et pourquoi est-ce qu'on étudie l'alimentation spécifique? C'est tout simplement pour pouvoir te dire, tiens, on va avoir telle espèce de plancton, donc si on a beaucoup à manger et que les conditions sont favorables, on risque d'avoir des invasions de ces méduses.
Alors on dit que les méduses seraient plus nombreuses aujourd'hui qu'avant.
Moi je ne peux pas, avec mes arguments de scientifique, dire c'est la surpêche, c'est les changements climatiques, c'est la pollution. On ne pourra comprendre leur distribution, leur apparition, que si on étudie ces méduses à l'échelle du bassin méditerranéen. Il ne faut pas oublier non plus, la plupart des méduses agissent un peu comme si tu avais vu ce film Nemo, où des petits poissons vont se réfugier dans les bras des anémones de mer.
Oui, au moins ici on décompresse, on respire. Franchement, il n'a pas assuré sur ce coup-là, ton bonhomme?
Ça pour assurer, il assure.
Non mais attends, c'était pas évident, hein?
Il y avait des tas de poissons clowns qui avaient des vues sur cette anémone.
Ah, je te dis pas la liste d'attente, ça a été la foire d'empoigne.
Eh bien, les méduses jouent un rôle identique. Par exemple, la grande méduse bleue qu'il y a ici en Corse, il y a des tas de petits poissons qui vont se réfugier. Et si les méduses ne sont pas là, ces juvéniles subissent une mortalité beaucoup trop importante parce qu'ils sont capturés par les autres. N'allons pas trop vite dans notre intention de détruire complètement les méduses parce qu'on sait qu'elles jouent un rôle clé dans l'écosystème. C'est ça une des clés de la biodiversité, c'est ne pas laisser une espèce se développer au détriment des autres. Voilà. Tu m'attaches ma combi s'il te plaît?
Ah oui, en belge, je te la tirerai. Donc Jean-Henri, là, on va plonger.
On part de l'échelle, hein, qui est sur le port de Starezzo. Tu vas voir que ici, on est loin d'avoir un système dégradé.
Et Jean-Henri, tu utilises mes vieilles palmes? C'est les miennes, celles-là, non?
Mais sur les palmes du chef. Hein,
si tu savais ce qu'elles ont vécu, celles-là. 2-3 000 plongées en Corse, au même endroit. On arrive quand même à toujours être impressionné, à être curieux sous l'eau. Ouais, parce que c'est pas figé, hein. Donc tous les jours il se passe des choses différentes, donc c'est même très important. On ne voit vraiment évoluer quelque chose qu'en étant en permanence dedans. Et donc, vous êtes dans un milieu pas loin d'être natif, encore aujourd'hui, ce qui est quand même très rare en Méditerranée.
Ça y est, on s'est mis dans l'eau. Là, on se trouve à une douzaine de mètres de profondeur. Jean-Henri est passé devant moi. Il survole l'herbier de Posidonie.
Comme tu peux constater, Stéphane, nous voici dans ce qu'on pourrait appeler les steppes sous-marines. Un herbier de Posidonie, c'est-à-dire des prairies sous-marines. Et le refuge, tu vois, regarde tous ces poissons qui se refusent. Ce sont des poissons, regarde de grosse taille, quand celui-là il doit faire dans les 30-40 cm.
Là on va survoler en quelque sorte un amas rocheux sur lequel se trouvent toutes ces petites algues jaunes, des poissons de toutes sortes qui butinent. Faut faire attention, il peut y avoir quand même quelques oursins qui dépassent.
Une étoile de mer, ils se nourrissent de tous les petits déchets dans l'eau. Stéphane, voilà en face de toi une pélagia. Tu vois, cette méduse, c'est un animal extrêmement élégant. Malgré la combinaison, on risque d'être piqué par cet animal.
Allez, on passe au-dessus de ce rocher. Là, c'est un spectacle assez incroyable. En face de moi, un bloc jaune recouvert par des algues. Derrière, le bleu complètement turquoise. Entre deux eaux, un banc de petits poissons tout noirs, il doit y en avoir des centaines, et juste derrière, un barracuda assez imposant, il doit faire au moins un mètre, il est tout seul. Il faut soulever la tête aussi, parce qu'on nous a dit qu'il y a quelques dauphins qui se baladent dans le coin. Ils ont cette particularité de passer à côté des plongeurs sans que ceux-là s'en aperçoivent.
Et une interview sous-marine proposée donc par notre reporter Stéphane Combe. Je vous signale d'ailleurs que si vous souhaitez avoir des informations sur la station de recherche océanographique et sous-marine, donc dans la baie de Calvi, la Starezo, eh bien un petit film sous-marin vous permettra d'assister au tournage de ce reportage pour vous prouver, Pierre-Henri Gouillon, que Stéphane Combe était bien dans l'eau et non pas dans sa baignoire. Hein. C'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer en train d'enregistrer ce reportage.
Ouais, hein. Tout à fait, ouais. Je me demandais s'il y avait un nouveau gadget électronique.
Absolument pas, il est vraiment plongé dans les eaux de la Méditerranée. Qu'est-ce que ça vous inspire ces méduses, Pierre-Henri Gouillon?
Moi j'aime beaucoup les méduses, je trouve ça très beau. C'est vrai que quand même, quand il se met à y en avoir trop, ça devient un problème. Juste un mot, des fois, vous voyez, quand on parle comme ça, dans un reportage, on ne fait pas attention à tout ce qu'on dit. Et l'emploi du mot primitif, alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus accepter. Vous voyez, ça, le problème, c'est qu'il y a eu longtemps, on a cru que certaines formes étaient primitives, et puis qu'ensuite, il y avait eu d'autres choses qui avaient évolué par-dessus. Aujourd'hui, avec la théorie darwinienne, on sait que toutes les formes actuelles ont le même âge, en quelque sorte. Alors bien sûr, il y a des choses en forme de méduses avant qu'il y ait des choses en forme de mammifères, mais n'empêche que les méduses actuelles sont actuelles, elles ne sont pas primitives.
Les bactéries aussi?
Et les bactéries, moi, je dis qu'elles sont bien plus évoluées que nous. D'ailleurs, elles nous survivront, ça c'est sûr. Si vous voulez, les bactéries, par rapport à nous, c'est des formulins de la reproduction. Elles ont une optimisation de la reproduction de leur ADN formidable. Nous, on est comme des espèces de gros tracteurs, si vous voulez, par rapport à ces machins-là.
Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure avec nos amis belges de la tourbière, qui était le seul milieu naturel qui reste en Europe. Est-ce qu'au niveau marin, l'impact humain, là aussi, se fait énormément sentir?
Alors, l'impact humain se fait sentir, ça a été dit d'ailleurs dans le reportage, par trois aspects, hein, la pêche, la pollution, et puis les changements globaux, disons.
Mmh. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous, Pierre-Henri Gouillon, cette notion de biodiversité, alors avec, comme on le disait tout à l'heure, nos lunettes darwiniennes?
Mais avec les lunettes darwiniennes, ce qu'il y a de remarquable, c'est que la biodiversité change complètement par rapport à la vision du XVIIIe siècle, et que malheureusement, on est encore largement dans une vision du XVIIIe siècle, dans la présentation pédagogique. C'est-à-dire, pour être pédagogique, et ça a été dit d'ailleurs dès le début de cette émission...
Le terme était beaucoup employé, oui.
Voilà, on pour être pédagogique, on parle d'espèces, comme si jamais la biodiversité, c'était une liste d'espèces. Mais ça, c'est la vision Noé. Hein. C'est, on va sauver les espèces, on les met un couple de chaque dans un bateau, puis tout va bien. En fait, la biodiversité, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Au fond, à chaque fois que naît un nouvel individu, ça fabrique un peu plus de diversité puisqu'il n'est pas comme les autres. À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il y a une extinction. Et ça, c'est vrai à toutes les échelles. Et Darwin l'a dit explicitement. Hein. La différence entre deux individus, la différence entre deux variétés, entre deux sous-espèces, entre deux espèces, entre deux genres, tout ça, ça, c'est des différences, comme dit Darwin, qui se fondent l'une dans l'autre en une série insensible. Il faudrait arrêter de faire croire aux gens que la biodiversité, c'est juste une liste d'espèces. Si jamais c'était ça, eh bien, il suffirait de se donner du mal pour conserver chaque espèce l'une après l'autre. Ça demanderait beaucoup de travail, mais au moins, on voit ce qu'il faut faire. Et c'est, ce qu'il faut faire, c'est pas ça. Parce que conserver chaque espèce, c'est croire qu'on va congeler un processus dynamique. Ce qu'il faut, c'est remettre en route la dynamique de production de diversité. Au fond, les extinctions, c'est normal, c'est pas grave, à condition qu'il n'y en ait pas trop, et à condition que les apparitions compensent ces disparitions.
Alors, comment est-ce que concrètement, et puis on passera la parole à nos camarades ensuite, comment est-ce qu'on remet le moteur en marche, puisque vous évoquiez tout à l'heure, évidemment, des initiatives au niveau politique, et on ne peut pas y arriver sans passer par là.
Ça, on ne peut pas y arriver sans passer par là, et effectivement, le point essentiel pour que de la diversité se fabrique, c'est de laisser à la fois chaque milieu développer ses propres caractéristiques, mais aussi de laisser une connectivité entre ces milieux, de façon à ce que chaque milieu ne se retrouve pas totalement isolé et du coup s'appauvrisse énormément. C'est ça qui est un peu subtil.
Il y a le brassage.
Il faut un peu de brassage.
Mais point trop d'en faut.
Voilà, mais pas trop, parce que si jamais vous brassez tout, aucune spécificité locale ne peut s'établir. Si vous brassez pas assez, chaque lieu s'appauvrit et devient quasiment stérile. Donc c'est toute la difficulté de mettre en place une vraie gestion des territoires. Et l'idée des trames vertes et bleues est absolument dans ce sens-là.
Je signale Pierre-Henri Gouillon que vous publierez en octobre aux origines de l'environnement aux éditions Fayard, livre dans lequel vous allez revenir sur cette notion de biodiversité.
Je vais y revenir avec de très nombreux auteurs. Ouais.
Yannick Villedieu.
Oui, on va continuer donc avec nos invités et nos spécialistes. J'irai en Suisse, Jean-Christophe Villiers, cette vision là de la protection de la restauration des écosystèmes. J'imagine que c'est aussi ce que vous voyez, ce qu'il faut faire, ce que vous pensez qu'il faut faire.
Bien sûr, moi je suis d'accord avec plein de choses qui ont été dites sur le fait qu'on vit dans un système entièrement dynamique. Il faut préserver les composantes de la biodiversité, donc les espèces. Préserver des espèces voulant dire préserver des populations d'espèces, donc leur donner les capacités de migrer, de se reproduire, de s'adapter face aux changements climatiques, par exemple, qui vont se matérialiser. Moi, je pense qu'il est important que, au moins vis-à-vis du grand public et des décideurs, il n'y ait pas de débat sur des concepts différents, parce que au fond, ce qu'on cherche tous, c'est à préserver la nature. Moi, je préfère ce terme de nature plutôt que de biodiversité qui est très technique.
Oui, c'est Pierre-Henri Gouillon à Paris. Je voulais réagir à ce qui vient d'être dit. Je trouve la discussion intéressante. En fait, je comprends bien que sur un plan pédagogique, on puisse penser que c'est mieux de parler des espèces. Mais en même temps, je crains que ça puisse donner une vision très fausse de ce qu'il convient de faire. Parce que si on dit que le problème, c'est que les espèces s'éteignent, alors tout politique bien intentionné va vous dire, eh bien, donnez-moi la liste, on va voir lesquelles on peut sauver. Et en fait, si on se contente de ça, et on peut donner l'impression qu'en se contentant de sauver les espèces une par une, eh bien, on fait le boulot qu'il faut faire, alors qu'on fait juste un travail d'urgence. Mais ce qu'il faut remettre en route, c'est remettre en route la machine. Et si jamais les gens ne comprennent pas, j'ai bien peur qu'on mette beaucoup d'énergie dans le fait de sauver quelques espèces et qu'on, en fait, on rate ce qui convient vraiment de faire, c'est-à-dire de remettre en route tout le fonctionnement même des systèmes biologiques qui produisent de la diversité.
Et voilà, c'est donc la fin de cette première partie, de cette première heure de cette émission spéciale des radios francophones publiques sur la biodiversité. En deuxième heure, donc la suite de notre émission spéciale réalisée par les radios francophones publiques, la RTBF, en Belgique, à Paris, France Inter, la radio-télévision suisse à Lausanne et à Montréal, Radio-Canada. Les années-lumière, deuxième heure.
Bonjour, ici Yannick Vildu à Montréal, à Radio-Canada, pour vous présenter une émission spéciale sur la biodiversité, spéciale parce que préparée par les radios francophones publiques pour marquer l'année internationale de la biodiversité en 2010 et pour marquer la journée mondiale de la biodiversité le 22 mai. Et nous sommes donc tous et chacun dans nos studios. Jacques-Olivier à Liège pour Semence de Curieux. Bonjour Jacques.
Bonjour Yannick.
Mathieu Vidard à Paris pour La Tête au Carré sur France Inter. Bonjour Mathieu.
Bonjour Yannick, ravi de vous retrouver.
Et Nancy Ypsilantis à Lausanne. Magazine Impatience est à la radio-télévision suisse. Alors vous allez présenter votre reportage dans quelques minutes. Un reportage, Nancy, qui portera sur quoi ?
Un reportage qui portera bien sûr sur la biodiversité, mais en forêt cette fois, avec un reportage de Pascaline Minet dans la réserve du bois de l'Hôpital. C'est près de la ville de Neuchâtel. C'est une forêt qui abrite de vénérables chênes et toute une famille de woolly woodpeckers, c'est-à-dire de pics.
Et pour ma part, à Montréal, je fermerai le bal des reportages avec un document préparé par Chantal Srivastava des Années-Lumière. Elle va nous emmener, Chantal, dans des marais qui sont très proches de Montréal, où prolifère une espèce envahissante de roseaux, le roseau phragmite. Mais pour commencer, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. Son bureau est à Montréal, où est situé le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Cette convention est un traité international signé par 193 parties qui s'engagent, rien de moins, à préserver la vie sur Terre. Son bureau est à Montréal, donc, mais sa vie se passe aux quatre coins de la planète, puisqu'il est le secrétaire exécutif de cette convention. Il s'appelle Ahmed Djoglaf et je le joins à Nairobi, au Kenya, où il participe à la réunion du comité d'experts scientifiques, justement, sur cette convention. Bonjour, monsieur Djoglaf.
Bonjour.
Alors, la convention sur la diversité biologique a publié il y a quelques jours la troisième édition de ses perspective mondiale de la biodiversité. En quelque sorte, c'est l'état du monde de la planète vie que vous avez publié, monsieur Djoglaf.
C'est peut-être le troisième rapport, mais c'est le premier rapport qui est basé sur les rapports nationaux des gouvernements. Donc nous avons demandé à tous les gouvernements qui sont membres de cette convention de soumettre un rapport sur la manière avec laquelle ils ont mis en œuvre cet engagement de Johannesburg qui a été adopté par les chefs d'État en 2002 à l'occasion du sommet du développement durable, qui s'est tenu à Johannesburg, de réduire de façon substantielle la perte de la biodiversité en 2010. Donc c'est la première fois que nous avons un rapport qui est basé sur la réalité du vécu collectif des nations et sur la réalité du terrain.
Et c'est un rapport aussi qui a été fait qui est passé au crible des scientifiques, et qui fait un aveu d'échec. On n'a pas réussi nulle part sur la planète, on n'a pas réussi vraiment à atteindre les objectifs qu'on s'était donnés justement pour 2010 en termes de préservation de la biodiversité.
Ben, non seulement on n'a pas réussi à arrêter la perte de la biodiversité, mais on continue à perdre la biodiversité de façon alarmante. Et ces rapports nationaux qu'on a reçus, 89% des rapports qui ont été soumis indiquent que les changements climatiques deviennent maintenant l'une des causes principales de la perte de la biodiversité. Et les experts nous disent que pour chaque augmentation d'un degré de température de la surface de la planète, c'est 10% de la biodiversité végétale ou animale recensée qui disparaîtra. Et donc les experts prédisent que d'ici la fin de ce siècle, plus de 30% des espèces vont disparaître. Et je répète, les espèces recensées, comme vous le savez, les experts ont recensé 2 millions d'espèces et il semblerait qu'on ait 15, 30 millions et parfois beaucoup plus selon certaines études. Et c'est pour cela que certains experts parlent et n'hésitent pas à parler de la sixième extinction globale des espèces et la première à être générée par une seule espèce, parmi les millions d'espèces, l'être humain.
Le portrait est assez catastrophique. Vous parlez donc de cette perte massive de biodiversité. Les endroits les plus sensibles ou les plus touchés pour l'instant en termes de biodiversité, quelques exemples, Monsieur Djoglaf.
Je pense qu'il n'y a absolument aucun pays sur Terre, y compris le Canada, y compris la Suisse, y compris la France, qui n'est épargné par cette perte de la biodiversité. Donc il n'y a absolument aucun système qui n'est épargné, c'est tous les systèmes, mais pour certains systèmes, et c'est ce qui fait également la différence de ce rapport, ce n'est pas uniquement un bilan, ce n'est pas uniquement l'état des lieux, mais le rapport comprend également des scénarios pour le futur, et le rapport indique clairement que si on ne fait rien, nous allons arriver au point de non-retour et au point de basculement de certains écosystèmes, et en particulier les écosystèmes marins, les écosystèmes forestiers, l'eau douce, sont les plus menacés. Et surtout, les océans, du fait du réchauffement de la planète, même le corail qui se trouve dans les eaux profondes des océans, va être affecté. Et ce rapport prédit que le taux d'acidification des océans sera en 2050 100 fois supérieur au taux actuel, c'est-à-dire pratiquement une menace de mort sur toute la vie maritime de demain.
Ce que vous dites dans ce rapport qui vient de sortir, et le message profond, c'est que cette protection de la biodiversité, c'est pas un luxe simplement pour dire on va garder des jolies petites fleurs et des jolis petits animaux dans la nature. C'est vraiment au cœur même du développement et d'un développement durable, d'une perspective de vie durable pour l'humanité. C'est bien ça, la biodiversité, c'est au cœur de notre survie sur Terre.
Le mot peut être scientifique, et il est scientifique, il a été créé en 1887 par un scientifique américain, Monsieur Wilson, mais la biodiversité, c'est la vie. Sans la biodiversité, il ne saurait y avoir de vie sur Terre. Et donc, comme vous l'avez dit si bien, la biodiversité, ce n'est pas uniquement l'esthétique, ce n'est pas uniquement de la verdure, ce n'est pas uniquement les parcs, c'est l'économie, c'est les fondements même de l'économie mondiale. 90% des ressources, des revenus de l'Afrique, du continent africain, sont les ressources naturelles. Mmh. Un pays comme le Seychelles, toute l'économie du Seychelles fonctionne sur la base du tourisme et de l'écotourisme et de la pêche. Un pays comme le Brésil, la 8e puissance mondiale, 40% du PNB du Brésil, c'est les ressources naturelles. Avec la perte de la biodiversité, c'est la perte des capacités de développement, c'est l'aggravation de la pauvreté, en plus, bien sûr, des problèmes liés à la santé. Plus les écosystèmes, la santé des écosystèmes se détériore, plus la santé humaine se détériore. Donc la biodiversité, c'est la santé, c'est l'économie, c'est la nourriture, c'est les médicaments, c'est les forêts. Et donc nous perdons. Donc c'est comme si un industriel a un capital et cet industriel est en train de détruire le capital de reproduction, son outil de production. Et donc c'est pour cela que nous appelons donc à un éveil des consciences, à un sursaut salutaire de l'humanité, pour dire que le business actuel ne peut plus durer et que la ressource qui existe à l'heure actuelle, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'air, que ce soit les poissons, ne sont pas éternelles. Nous avons développé le mythe que la ressource existante est là et elle existera toujours. C'est, malheureusement, c'est pas le cas. Donc nous devons l'utiliser de façon raisonnable, de façon durable. Et c'est l'un des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Ce n'est pas uniquement la conservation, c'est l'utilisation rationnelle, l'utilisation durable de la biodiversité et le plus important, l'accès de cette ressource et le partage des bénéfices entre les propriétaires de cette ressource et les utilisateurs de cette ressource. Et donc le partenariat, un partenariat rénové entre les pays pauvres et les pays développés.
Monsieur Ahmed Djoglaf, secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, j'espère que cette année internationale de la biodiversité servira à cette prise de conscience. J'espère aussi que ce qui va se passer à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies en septembre, puis ensuite à Nagoya au Japon, seront des points décisifs dans cette lutte pour la biodiversité.
Le secrétariat s'enorgueillit d'être à Montréal depuis 1996 et nous pensons réellement que le Canada, qui va abriter le G20 et le G8 en juin, pourra également faire sa contribution à quelques mois du sommet de l'Assemblée générale. Et nous espérons que la biodiversité et les changements climatiques seront à l'ordre du jour de cette rencontre inédite en juin de cette année au Canada.
Monsieur Ahmed Djoglaf, secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité biologique, merci beaucoup.
Merci beaucoup et bonne journée.
Et bonne journée à vous aussi, Monsieur Djoglaf. Et je signale effectivement qu'on va encore beaucoup parler de biodiversité dans les instances internationales. Le 22 septembre, à New York, les chefs d'État de la planète vont participer au premier sommet de l'ONU sur la biodiversité. Puis en octobre, du 18 au 29, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique que dirige donc M. Ahmed Djoglaf, qu'on vient d'écouter, organisera la 10e conférence internationale sur le sujet. Ça va se passer à Nagoya, au Japon. Mais en attendant tout ça, je passe l'antenne à la Suisse et à Nancy Ypsilantis de l'émission Impatience.
Impatience. Nancy Ypsilantis.
Gérer la forêt pour y favoriser la biodiversité, c'est ce que nous propose de découvrir Pascaline Minet qui s'est rendue dans une forêt située juste à côté de la ville de Neuchâtel. Les vieux chênes sont préservés car ils abritent toute une série d'espèces vivantes et notamment des oiseaux comme les pics. On se promène en compagnie de Blaise Mulhauser qui est ornithologue et conservateur au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, au micro de Pascaline.
On se trouve au bas d'une garide qui a été recréée par le service forestier et le groupe de travail de la réserve forestière du Bois de l'Hôpital. Alors la garide, c'est le terme neuchâtelois pour la garrigue. En fait, c'est des zones ouvertes sur des sols rocailleux, secs et très bien exposés au soleil. Garide, ça vient du mot garrigue et du mot aride. Et c'est un terme neuchâtelois pour signifier ces petits milieux particuliers. Donc dans le bois de l'hôpital, c'est une réserve forestière à intervention particulière. Ça veut dire que les forestiers interviennent, font des entretiens selon des objectifs particuliers. Alors l'un des objectifs, c'est de recréer ces garrigues. L'autre objectif, c'est de favoriser les chênes, donc la régénération de la chênaie. Et puis un troisième objectif, c'est de favoriser la biodiversité, notamment par le fait de favoriser les pics. Alors nous avons choisi d'étudier les pics, pourquoi ? Parce que c'est un très bon indicateur de l'état de diversité de la forêt. Les pics, on étudie 6 espèces de pics dans cette forêt, ils sont les 6 présents. C'est le pic noir, le pic vert, le pic cendré, le pic épêche, le pic mare et le pic épêchette. Et chacun va utiliser une niche différente. Il aura besoin de vieux arbres, d'arbres à écorce crevassée, de bois mort sur pied, de bois mort au sol. Et puis surtout les pics, ben, vous savez, ils creusent des loges. Puis ces loges, elles vont être utiles à plein d'autres animaux. On peut penser par exemple aux micro-mammifères, les loirs, les muscardins qui vont utiliser les anciennes loges de pics, les chauves-souris aussi. Et puis dans les insectes, on peut penser aux abeilles. L'abeille domestique peut aussi s'installer dans une ancienne loge de pics, aux bourdons, aux frelons, aux différentes guêpes. Et puis selon la nature de la loge, si elle est humide ou bien si elle est sèche, eh bien on aura une flore aussi, enfin surtout des champignons qui vont se développer dans ces loges. Et puis j'ai oublié de citer tous les oiseaux qui profitent des loges de pic. Alors ça peut aller de la chouette hulotte pour la loge de pic noire, jusqu'au mésange, la mésange nonnette par exemple, dans les loges de pic épêchette. En passant par la citelle, le pigeon colombin. Donc il y a vraiment énormément d'espèces qui sont favorisées grâce au pic. Le pic, c'est un faiseur de diversité en forêt.
Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le favoriser lui, pour favoriser les autres.
Voilà, et puis surtout ben justement de bien étudier l'évolution des populations de ces pics.
Peut-être qu'on peut juste monter là encore. On a une belle vue sur le lac de Neuchâtel. Et, c'est
ouais. Et sur ce banc en pierre, il y a un lézard des murailles qui vit. Je l'ai photographié l'autre jour. Là, on a par exemple l'épine vinette qui vient de fleurir.
Ce petit buisson avec les petites fleurs jaunes.
Voilà. Alors après, ça devient des fruits allongés rouges, extrêmement riches en vitamines. Et puis ça, les oiseaux, ils adorent.
En fait, c'est assez mélangé comme forêt.
Oui, alors en fait, il y a 4 types d'associations végétales dans cette réserve forestière, donc qui fait 100 hectares, 1 km². Et celle qu'on voit juste devant nous, si vous la décrivez, qu'est-ce que vous voyez là ?
Je vois plein de jeunes, enfin jeunes, non, plein de chênes.
Et voilà, ils ne sont pas forcément jeunes, ils sont rabougris.
Ils sont rabougris.
Des petits chênes de rien du tout. Bon, ils sont un peu plus grands que nous quand même. Qu'est-ce qu'ils font là? 4 mètres de haut peut-être. Mais certains ont plus de 100 ans. Donc ça, on est dans la chênaie buissonnante, hein, ce qu'on appelle la chênaie buissonnante, c'est-à-dire que les chênes restent des sortes de buissons. Et pourquoi ça? Parce que il n'y a que de la roche. Essayer de se développer, de pousser sur de la roche, ce n'est pas forcément évident. Alors, c'est très contrasté avec la forêt qui est juste de l'autre côté. Du reste, on va s'approcher de l'autre forêt parce que les arbres sont à même hauteur au sommet. Mais alors, les arbres de la combe, ils sont 20 mètres plus bas. Donc, ils poussent 20 mètres plus bas. Donc, c'est assez drôle de voir cette limite supérieure qui a l'air toute plate, mais en réalité, les arbres, les chênes qui ont eu la chance de pousser dans la combe, eh ben, eux, ils sont gigantesques.
Et c'est quel type de chêne?
Alors ici, on peut avoir affaire aux chênes pubescents dans la chênaie buissonnante, et puis aux chênes sessiles.
Allons voir les grands chênes alors. Ah oui, d'accord. Donc là, on est en haut du craie, en fait.
Voilà. Si on descend, on va trouver les grottes de l'Ermitage. Et puis, qu'est-ce que vous avez devant vous, là?
Des chênes.
Les chênes.
Là, des chênes et des hêtres.
Et les hêtres. Hein, puis ces hêtres, ils partent de bien bas. Puis le volume, le diamètre du tronc est quand même beaucoup plus important que nos petits chênes rabougris de la chaîne buissonnante.
Ah oui, donc ils sont en contrebas, à plusieurs mètres en bas. Ah, il y a un petit écureuil qui monte.
Ah voilà.
Deux même. Ouais. Et ils arrivent au même niveau, comme vous me disiez.
Au bas de ce chêne, vous voyez un petit triangle jaune.
Oui.
Voilà. Alors là, on signale les arbres à trous de pic. Comme ça, le forestier, quand il vient, il ne coupe pas cet arbre. Cet arbre va rester jusqu'à sa belle mort. Alors le pic-mar, parce qu'on va quand même parler du pic-mar, ouais, qui est un petit peu plus petit que le piquet-pêche, qui a un bec aussi plus petit, donc sa taille c'est 20 cm du bec au bout de la queue pour une envergure de 40 cm au maximum, donc d'un bout de l'aile gauche au bout de l'aile droite. Le piquet-mar, il a un bec plus court, donc il aura beaucoup plus de peine que le piquet-pêche à creuser des loges dans un chêne très sain, dont le bois est très dur. Et par exemple, le piquet-pêche, sans souci, il creuse dans du résineux, alors que le piquet-mar a un peu plus de peine. Il lui faut des arbres moribonds, bien des branches latérales qui commencent à sécher pour construire sa loge. En général, il repère les branches les plus faciles à creuser grâce aux champignons qui poussent. Souvent, il y a des champignons là où il y a du piquet-mar qui niche.
Donc c'est un pic qui ne martèle pas, qui fait pas...
Alors, quand il creuse les loges, il ne martèle pas, il pince avec son bec et puis il arrache des bouts d'écailles. Donc ça fait juste des petits coups comme ça. Alors là, on tend l'oreille, on dit « Ouh, là, il y a un pic qui travaille, on va aller voir ce qui se passe. »
Ah oui, c'est discret quand même.
Ouais. Bon, si on fait l'historique du piquet-mar dans le canton de Neuchâtel, dans les années 50, il n'y avait pas du tout de piquet-mar, parce que justement les chênes étaient très jeunes. Et puis le piquet-mar est revenu dans les années 70. Quand on a fait notre recensement en l'an 2000, on avait entre 100 et 150 couples dans le canton de Neuchâtel, et on estimait la population suisse à 400 couples. Donc vous voyez la proportion, hein, c'était entre un quart et un tiers des populations de piquet-mar qui se retrouvaient dans le canton de Neuchâtel. Et maintenant, on voit que c'est une espèce en progression, en tout cas dans les cantons romands.
Donc c'est un bon indicateur quand le piquet-mar revient de cette forêt variée,
oui,
en bonne santé.
Oui, oui. Et puis le meilleur indicateur, c'est peut-être justement la diversité des pics dans une forêt. Parce que même si on parle souvent de compétition entre individus ou espèces, c'est clair que quand les oiseaux veulent se reproduire, ils essayent de maintenir leur territoire. Mais cette compétition est plutôt bénéfique que l'inverse. C'est-à-dire que même si parfois le piquet-pêche
élimine le piquemar d'une loge qu'il aimerait utiliser. Dans l'ensemble, une structure qui permet d'accueillir les 6 espèces de piques. Non seulement les 6 espèces seront présentes, mais leur densité de chacune des espèces sera plus forte. Alors le piquet-pêche, typiquement, dans une forêt de résine pure, il y aura du piquet-pêche, mais ce sera peut-être un couple tous les 100 hectares. Alors que dans une forêt où il y a les autres espèces de piques, ici on arrive à 2 couples pour 10 hectares pour le piquet-pêche. Ah, là il y a le piquemar, le piquet-pêche qui se...
Frite ?
Il y a eu une excitation du piquemar et un cri de piquet-pêche.
Et on voit deux oiseaux qui volent, ouais. J'en ai vu un partir à droite et un à gauche. C'était pour illustrer votre propos.
Voilà, ils étaient d'accord avec moi. Du reste, ils sont toujours d'accord avec moi.
L'homme qui fait acquiescer les oiseaux, c'était Blaise Mulhauser, conservatoire au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel, au micro de Pascaline Minet. Jean-Christophe Vier, vous êtes directeur adjoint du programme pour les espèces de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est vous qui élaborez la fameuse liste rouge des espèces menacées. Et c'est la source d'information la plus complète au monde sur l'état de nos connaissances sur la conservation des espèces animales et végétales. Qu'en est-il de la biodiversité en Suisse ?
Mais la Suisse a aussi son propre système national, donc qui utilise d'ailleurs les critères internationaux que nous avons mis en place. Et je crois que comme tous les pays qui se donnent la peine d'évaluer leur biodiversité, il y a une grande partie des espèces ou de la biodiversité en Suisse qui est menacée de disparition. Alors, parmi ce rapport qui a été publié par les Nations Unies il y a peu de temps, il y a très peu de bonnes nouvelles, mais il y en a quand même quelques-unes, notamment pour faire le lien avec le reportage, c'est que la surface couverte par les forêts certifiées, c'est-à-dire qui bénéficient d'une exploitation raisonnée, grimpe relativement rapidement à travers le monde. Alors c'est pas du tout suffisant. On sait que la biodiversité forestière est partout en train de disparaître, notamment dans les endroits encore les plus nombreux où on rase un petit peu les forêts sans prendre la peine de regarder ce que l'on fait pour un profit immédiat. Et il y a tout un commerce. Je dirais un petit peu, même parfois mafieux, autour du bois. C'est pour ça qu'il est important. On pense toujours que c'est au gouvernement de faire quelque chose, mais en tant que consommateur, c'est un petit peu ça qu'il faudrait essayer de changer au cours de cette année de la biodiversité, c'est de pas laisser croire que ce sont les gouvernements tout seuls qui vont résoudre les problèmes. Les gouvernements peuvent mettre en place des incitations, peuvent mettre en place le cadre. Maintenant, c'est aux consommateurs, aux électeurs, c'est aux entreprises d'essayer d'avoir les meilleures pratiques, donc de s'approvisionner dans un bois avec un bois provenant de forêts exploitées de façon durable. Et donc, on a vu les pics qui sont un bon indicateur. On peut parler donc des chauves-souris. On sait que, par exemple, en Europe, les chauves-souris forestières qui ont besoin pour certaines espèces d'un grand nombre de dortoirs et d'arbres creux, elles ont des problèmes et elles sont menacées.
Jean-Christophe Vier, quels sont les groupes vivants les plus menacés ?
Alors les plus menacés, en ce moment, on a une grosse crainte sur les amphibiens, donc les grenouilles et les crapauds. Ceux qui déclinent le plus rapidement, ce sont les coraux, de façon très alarmante, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tellement menacés il y a une quinzaine d'années. Et là, on observe une chute des espèces de coraux qui est assez spectaculaire. Les amphibiens, c'est 1 sur 3 qui est menacé. Les mammifères, je peux vous donner une idée, c'est 1 sur 4. Les oiseaux, c'est 1 sur 8. Tous les groupes sont à peu près menacés. On n'a pas encore tout couvert. Je pense que la biodiversité dans les eaux douces, poissons, mollusques, d'eau douce, est peut-être encore plus menacée que sur la Terre.
Est-ce que les apparitions compensent les disparitions ?
Pas du tout. Alors ça, c'est un problème aussi qu'il y a dans les médias, c'est-à-dire que souvent une information est relayée de découvertes de nouvelles espèces. Donc, ce sont pas des découvertes, ce sont des espèces qui sont nouvelles pour la science, c'est-à-dire que les scientifiques ont mis la main dessus, ont pu les décrire, mais elles sont là depuis très très longtemps. Ce sont pas des espèces qui apparaissent comme ça. On pense que le rythme d'extinction à peu près normal. Il y a une extinction, est un phénomène normal. On pense qu'il y a une espèce qui s'éteindrait pour 1 million d'espèces présentes par an. Donc ça serait un petit peu la normale. Pour l'instant, on en documente 100 à 1000 fois plus sur l'ensemble des groupes d'espèces que nous avons étudiés.
Jean-Christophe Vier, merci. Je rappelle que vous avez publié « Le jour où l'abeille disparaîtra, l'homme n'aura plus que 4 années à vivre ». C'est paru aux éditions Artaud et c'est un joli plaidoyer.
Alors merci Nancy à Lausanne. On va continuer avec nos invités. Peut-être que je me tournerai vers la Belgique, Étienne Brancard, à ce reportage sur la réussite au fond du pic, de la réinstauration du pic ou de la protection du pic en Suisse. Comment vous réagissez? C'est une bonne nouvelle?
Ben oui, c'est une très bonne nouvelle, et les pics sont des oiseaux vraiment sympathiques. D'une part, ils sont très jolis.
Ils font toc 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 toc, hein, on a dit.
Voilà, ils font des bruits intéressants aussi. Mais ils sont aussi ce qu'on peut appeler des espèces parapluies, c'est-à-dire que en protégeant les milieux dont les pics ont besoin, donc une diversité d'essences et surtout des vieux arbres et beaucoup de bois morts, eh bien on fait plaisir à une espèce forestière sur quatre. Il y a une espèce forestière sur quatre qui, au cours de son cycle de développement, a besoin de vieux arbres et de bois morts. Et donc vraiment, c'est un très bel indicateur, et les forêts où on arrive à conserver une diversité de pics sont vraiment des forêts qui sont en bonne santé, qui sont bonnes pour la biodiversité.
Je me tourne vers mon invité ici à Montréal, Jacques Prescott. On est un pays de forêts au Canada. On doit avoir beaucoup d'arbres morts. Est-ce qu'on fait le travail de ce côté-là? Est-ce qu'on les protège, nos arbres morts, pour faire plaisir à une espèce sur quatre?
Il y a quelques années, on a connu un épisode de verglas assez dramatique au Québec. Et puis, les gens se sont lancés dans le chauffage au bois. Et puis, tout à coup, on a connu un déboisement massif des forêts du sud du Québec. Et on a craint pour la survie de plusieurs espèces de chauves-souris notamment, et d'oiseaux qui vivent sur ces vieux bois, sur ces bois morts. Les chauves-souris qui se cachent justement dans les trous creusés par les pics.
Et on les voit disparaître alors.
Et puis on a craint pour la survie de ces espèces. Alors aujourd'hui, il nous faut apprendre à laisser sur place ces abris naturels. Et puis, en arriver à une foresterie dynamique qui tient compte des besoins non seulement en bois de chauffage et autres produits forestiers, mais aussi qui prend en compte les besoins biologiques des différentes espèces qu'on retrouve dans ces milieux. Et là, la science est très importante. Il nous faut poursuivre courageusement les travaux de développement de la connaissance de la biodiversité. On a souvent l'impression que nous connaissons tout de la biodiversité, ce qui est loin d'être le cas.
Oui, bien sûr. En France, Pierre-Henri Gouillon.
Sur les questions d'extinction par rapport aux apparitions de nouvelles espèces, une nouvelle espèce n'apparaît pas d'un coup. Il faut du temps.
Oui.
Et il faut d'abord que des populations soient différenciées, puis que ces populations deviennent de plus en plus différentes, deviennent des variétés, des sous-espèces, et ensuite des espèces, vous voyez. Et alors, si jamais le processus est bloqué dès le départ, eh bien, on n'arrivera jamais au bout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas voir arriver rapidement des nouvelles espèces qu'on ne peut pas voir naître de la biodiversité, même si ce n'est pas encore des espèces. Et ça se passe au niveau de la génétique. Ça demande des études qui ne sont pas seulement des études d'écologie naturaliste, mais aussi avec des démarches génétiques, des démarches de compréhension des mécanismes d'évolution des populations, et que si on veut remettre en route quelque chose qui fait de la diversité, il ne faut pas juste se focaliser sur le fait de voir apparaître de nouvelles espèces, mais il faut voir déjà se différencier des populations.
Ce qui me frappe dans toutes ces discussions qu'on a dans cette émission Biodiversité, c'est effectivement la complexité du phénomène de la biodiversité, et le fait que, comme vient de le dire Jacques Prescott ici, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot scientifique à faire pour bien comprendre ce dont on parle exactement, non ?
Absolument. Et je voudrais vous dire que c'est une difficulté qu'on a au niveau international, c'est que le malheur, c'est que c'est un problème important, il est relativement reconnu maintenant, mais c'est pas rentable. C'est-à-dire que, en gros, on va pas gagner des mille et des cents à étudier ce truc-là, alors que à essayer de trouver telle ou telle molécule ou tel bout d'ADN qui fait ceci ou cela, alors là, on peut gagner beaucoup d'argent. Le résultat, c'est que quand même, dans les recherches en biologie à l'heure actuelle, et c'est vrai dans tous les pays du monde, il y a un déséquilibre monstrueux entre une biologie extrêmement mécanique qui essaye de fabriquer des médicaments, des choses comme ça, et qui a énormément d'argent, et puis une biologie plus intégrative qui essaye de comprendre tous ces processus et de voir comment il faut agir dessus, et qui évidemment étant beaucoup moins rentable et beaucoup moins dotée.
Un mot là-dessus, Jacques Prescott à Montréal.
Oui, j'aimerais rappeler que, par exemple, au Canada, on a évalué que la valeur des services rendus par la forêt boréale, les services biologiques rendus par la
biodiversité... Donc la grande forêt canadienne,
C'est 2,5 fois la valeur marchande de l'extraction forestière, donc 2,5 fois
de richesse,
richesse financière, si on veut, associée à cette forêt qu'on peut en retirer par la simple exploitation du bois.
Merci beaucoup. Et voici maintenant le quatrième et dernier reportage de cette série sur la biodiversité préparée par les radios publiques francophones, la RTBF, France Inter, la Radio-Télévision Suisse et à Montréal, la première chaîne de Radio-Canada, l'émission Les Années-Lumière. Alors notre reportage, il a été préparé par Chantal Srivastava. Il porte sur le roseau phragmite, une plante exotique et envahissante qui prolifère le long des autoroutes et dans certains marais. Sa progression rapide a été très marquée aux îles de Boucherville, un parc naturel au milieu du fleuve Saint-Laurent, tout près de Montréal. Absente des inventaires à la fin des années 1970, l'espèce y occupe maintenant plus de 30 hectares et elle semble être toujours en expansion. Le phragmite nuit grandement à la diversité végétale. Depuis quelques années, chercheurs et universitaires tentent d'évaluer les impacts sur la biodiversité.
Le marais est perdu en plein milieu des phragmites. Mais là encore, c'est beaucoup plus facile de marcher dans les phragmites de l'année dernière, qui sont un peu plus fragiles, que dans les phragmites de l'année. Parce que là, au mois de juillet, quand vraiment toutes les pousses sont sorties, c'est vraiment très très difficile d'avancer. On y perce aussi beaucoup nos bottes. Parce que le phragmite est tellement dur qu'il perce le plastique.
Ici, c'est la jungle. Amélie Pérez avance tant bien que mal parmi les phragmites, des roseaux envahissants. Étudiante à la maîtrise, elle est aujourd'hui venue recenser grenouilles et crapauds. La saison est jeune, mais déjà, la roselière est dense. Des tiges de graminées séchées, vestiges de l'été dernier, se dressent tout autour du marais. Et c'est sans compter toutes ces nouvelles pousses de l'année, qui atteindront bientôt une hauteur de 2 mètres. Tout un changement d'habitat pour les amphibiens plutôt habitués à bondir dans les quenouilles qui sont dorénavant confinées au centre du marais.
On voit quand le pourtour est totalement envahi par le phragmite, ça laisse moins d'espace pour les amphibiens pour se rencontrer. S'ils n'aiment pas trop ce type d'habitat, ils vont être obligés d'aller ailleurs, donc ça va diminuer un petit peu la quantité et la qualité des aires de reproduction. Donc là, en fait, on voit une de mes stations que je symbolise par un petit fagnon orange. Et donc je me rends à chaque fois aux mêmes stations, aux mêmes endroits. Et donc je vais pouvoir corréler en fait la présence des espèces d'amphibiens et leur abondance avec le type de végétation présente à notre station. Là j'arrive et j'écoute.
À chacune des stations de mesure, Amélie Pérez s'arrête durant 3 minutes pour écouter le chant des grenouilles. Une manière pour elle de recenser les espèces d'amphibiens. Aujourd'hui, elle tend l'oreille à la recherche de la grenouille léopard, qui en temps normal coasse volontiers à cette période-ci de l'année.
J'avoue que là, j'entends rien. C'est sûr que quand on fait beaucoup de bruit dans la végétation, forcément, on leur donne peur. Elles ont l'impression que c'est des prédateurs qui arrivent, donc elles s'arrêtent de chanter. Et j'avoue que pour être discrète dans le phragmite, c'est vraiment très très difficile. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment, en fait, s'il y en a moins. C'est juste au terme de mon étude qu'on va vraiment voir si ça a un impact ou pas sur la biodiversité et la quantité, en fait, de chacune des espèces. Mais moi, je vois plusieurs inconvénients. Par exemple, on sait que le phragmite va changer la composition spécifique des algues, par exemple. Donc, ça ne va pas être le même type de nourriture que les têtards vont pouvoir trouver dans des milieux où il y a des phragmites et dans d'autres types d'herbiers. Donc ça, déjà, ça peut avoir un impact. Je vois aussi un autre problème. Par exemple, une grenouille, pour se frayer un chemin quand même dans des gros tapis de phragmite, je suppose que ça ne va pas être évident parce qu'elles n'arrivent pas vraiment à diriger très bien leur saut. Et je pense que pour elles, ça va être assez difficile d'éviter les tiges de phragmite. En général, quand c'est des gros tapis de phragmite, c'est assez dense, c'est vraiment très dur à mon avis pour avancer. Même pour nous, en tant qu'humains, on a du mal à se frayer un passage. Alors je me demande pour les petits animaux comment c'est quand ils n'ont pas de force en fait pour écarter les tiges. Là, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Mais de ce que j'ai vu là pour l'instant, ça penche plutôt du côté assez négatif. C'est sûr que ça ne va pas éradiquer toutes les espèces d'un marais, là je pense pas. Étant donné que les phragmites ont tendance quand même à rester seulement sur le pourtour et pas non plus à envahir totalement un marais. En général, la colonisation va aller à 50% du marais, là j'ai jamais vu bien plus, donc il reste toujours pas mal d'eau libre et pas mal d'autres herbiers, mais c'est sûr que ça peut changer la composition spécifique et peut-être les abondances aussi.
Amélie Pérez rentre bredouille de sa chasse à la grenouille, et pourtant il y a dans son petit marais encore un peu d'eau libre pour les amphibiens, beaucoup plus en tout cas que dans certaines zones d'un autre marais situé plus loin dans le parc. Là, les roseaux entravent même la navigation.
Il y en a tellement que c'est difficile de naviguer là-dedans.
On n'a pas très.
Nous voici maintenant dans le grand marais thaïlandais, avec en toile de fond les conteneurs du port de Montréal. Daniel Attin peine à faire avancer sa barque, empêtrée dans les roseaux. Biologiste au ministère québécois des Ressources naturelles et de la faune, il surveille de près la progression du roseau envahissant, qu'on appelle aussi phragmite ou roseau commun.
Le grand marais thaïlandais, c'est un marais à quenouilles à la base, dont la pointe est maintenant envahie de roseaux communs. Donc c'était essentiellement de la quenouille avant qui a été remplacée par du roseau. En 1980, les superficies occupées par le roseau ici aux îles de Boucherville étaient faibles. C'était plus petit qu'un hectare. Et à peu près 25 ans plus tard, c'était rendu à 33 hectares pour un taux de progression d'environ 20 % par année. C'est considérable.
La prolifération de cette plante exotique venue d'Eurasie a commencé lors du développement du réseau routier québécois dans les années 60. Auparavant, la graminée s'était faite plutôt discrète. À la faveur des bas niveaux d'eau, la plante s'est tout d'abord propagée le long du fleuve Saint-Laurent. Et un jour, le roseau a commencé à étendre son emprise lorsque, pour construire des autoroutes, de larges corridors ont été dénudés de toute végétation. Aujourd'hui, le roseau envahissant a pris la place du roseau indigène et fait du bas-côté des routes son lieu de prédilection. Il affectionne aussi les marais, comme celui du Grand Thaïlandais, où Daniel Attin poursuit ses travaux de recherche.
Mais ici, on vient mesurer si l'envahissement des marais par le roseau commun a un impact sur la reproduction des poissons. On a plusieurs marais qui ont été aménagés en plein inondable pour compenser pour des pertes d'habitat. Et dans ces milieux-là, on commence à avoir des problèmes d'envahissement par le roseau commun. On veut voir si les investissements qu'on s'apprête à faire pour augmenter la production de poissons ne seront pas contrecarrés par l'effet d'une plante envahissante qui pourrait nuire à la reproduction de certaines espèces de poissons. L'espèce qu'on a choisi de travailler, c'est le grand brochet. Pourquoi le grand brochet? C'est une espèce sportive très importante là, dans la région de Montréal. C'est une espèce qui est pêchée par les pêcheurs sportifs. C'est une espèce qui utilise les marais pour la reproduction. C'est une espèce qu'on connaît bien aussi, la biologie. Donc, c'est une espèce qui nous permet aussi une facilité de travail là, pour documenter l'effet du roseau sur la reproduction des poissons. Ici, on est dans une parcelle d'échantillonnage de roseaux. Je me prépare à échantillonner des œufs de brochet là, avec un filet troubleau qui ressemble un peu à une grosse épuisette à poisson. Donc, on va donner un coup dans l'eau. On va gratter la végétation sur un mètre de distance par la largeur du filet. Donc, ce qu'on ramasse, c'est essentiellement de la végétation. Et on doit inspecter chacun des brindilles de végétation pour trouver des œufs de brochet qui ont environ 3 mm de diamètre. Des œufs translucides. Ah, et voilà un œuf de brochet fixé sur une tige de roseau de l'année précédente. Oui.
Gros comme un petit grain de tapioca, à peu près.
Effectivement. Effectivement.
L'an dernier, Daniel Attin et son équipe ont trouvé 3 fois moins d'œufs de grands brochets dans la roselière qu'ailleurs dans le marais. Cela étant dit, ils souhaitent d'abord analyser les résultats de cette année avant de sauter aux conclusions. Une chose est sûre, cependant, ici, le paysage a changé et la biodiversité aussi. Reste maintenant à mesurer les impacts. Qu'on le veuille ou non, le roseau envahissant est là pour rester. Oublier l'éradication, la seule option, c'est de limiter la prolifération. C'est ce que soutient le biologiste Claude Lavoie, coordonnateur du groupe Phragmite. Il étudie la progression du roseau depuis près d'une décennie.
On est encore, je dirais, relativement au début d'une étape d'invasion le long du fleuve Saint-Laurent, parce que si on prend, par exemple, ce qui se passe le long de la côte est américaine, ce ne sont pas des dizaines d'hectares de roselières qu'on a, mais plutôt des milliers d'hectares. Évidemment, il faudrait pas en arriver là, et c'est pourquoi il est important de faire des mesures de prévention pour ne pas, justement, qu'on ait à vivre avec cette situation. Alors, quand on parle de travailler au niveau de la prévention, on sait maintenant que si on laisse des surfaces dénudées après des travaux de construction, particulièrement, notamment, en bordure des autoroutes, lorsqu'on crée de nouvelles autoroutes ou de nouvelles routes. Si on laisse des surfaces dénudées de végétation, on crée des lits de germination pour les graines de roseaux très propices. Donc, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on est en train de tester à l'heure actuelle, c'est recouvrir le plus rapidement possible les surfaces dénudées. D'abord, par un genre de pelouse qui empêchera, sinon la germination, du moins le développement des plantules de roseaux. Et ensuite, dans le cas des canaux de drainage, des fossés de drainage à partir des autoroutes, l'implantation d'espèces arbustives qui vont entrer en compétition avec les individus qui se seront malgré tout installés. Compétition pour l'ombrage qui fera en sorte que le roseau ou le phragmite ne pourra plus survivre dans de tels environnements.
C'était un reportage de Chantal de Srivastava sur le phragmite, et le réalisateur des années-lumière, Dominique Lapointe, me glisse à l'oreille que nous venons d'entendre une jolie paire de reportages, l'un sur le chêne et l'autre sur le roseau. Hein, c'est pas une fable, la biodiversité. Alors, je suis en studio ici avec mon invité expert à Montréal, Jacques Prescott. Jacques, on a ici un autre exemple des menaces à la biodiversité dont on entend assez souvent parler. C'est le cas des espèces envahissantes. C'est un problème réel.
C'est un problème mondial. On peut dire que c'est le problème de la globalisation. Donc, les échanges de biodiversité entre les continents se font de plus en plus nombreux et suivent justement la circulation humaine entre les continents. Par exemple, depuis une centaine d'années, seulement en milieu forestier, on a compté au Canada près de 80 introductions d'espèces, d'insectes et de maladies des arbres qui ont un impact très, très important sur la production forestière au Canada. Alors, compte tenu que nous avons au Canada peut-être 10 % des forêts boréales, on a du monde. Il nous faut suivre de près, protéger cette forêt adéquatement et justement prévenir l'envahissement de nos forêts par ces insectes.
Et on imagine que ça se passe, vous l'avez dit, partout dans le monde. Par exemple, en Suisse, sur cette question des espèces envahissantes, Jean-Christophe Vier, vous devez vivre aussi ça, j'imagine, chez vous. Est-ce qu'il y a des exemples particulièrement frappants ou inquiétants?
En Europe, on estime qu'il y a pour l'instant 11 000 espèces envahissantes qui ont été
11 000
documentées.
Espèces envahissantes.
11 000 pour l'Europe, et on estime que 15 % auraient un impact économique. Donc, ça a bien été dit, je crois que c'est quelque chose, outre le fait que les espèces envahissantes sont une des principales causes de disparition de la biodiversité, peut-être la deuxième cause principale d'extinction, notamment sur les îles, par exemple, ou avec le cas classique des rats ou des chats qui sont introduits là où il y a des colonies d'oiseaux, donc il y a des extinctions qui ont été documentées. Mais il y a aussi un impact économique majeur dans différentes parties du monde aussi. On parle beaucoup de la jacinthe d'eau, par exemple. C'est un petit peu similaire au phragmite au Canada. Mais il y a 50 pays africains qui sont contaminés par cette plante originaire d'Amérique du Sud. Ça bloque les voies d'eau. Il y a plus d'oxygène dans l'eau. Il n'y a donc plus les poissons. Et les gens, en fait, les plus pauvres, non plus donc de poissons, ne peuvent plus se déplacer. Donc ce sont, comme bien souvent avec la perte de biodiversité, ce sont les gens les plus vulnérables qui souffrent directement, économiquement et dans leur bien-être quotidien des problèmes de perte de biodiversité.
En Belgique, Étienne Brancard, puisqu'il y a 11 000 espèces envahissantes en Europe, vous devez en avoir quelques-unes en Belgique vous aussi, hein, certainement.
Alors oui, on en a beaucoup, et les scientifiques ont travaillé tous ensemble, les scientifiques qui travaillent sur les invasions biologiques en Belgique, pour mettre en place ce qu'on appelle un système de liste noire pour répertorier les espèces les plus problématiques et pour les faire connaître aux différents décideurs, avec dans l'idée de prioriser les actions sur le terrain au niveau de la lutte et au niveau de la prévention. Et la prévention, c'est vraiment très très important au niveau de la gestion de ce problème-là, parce que c'est là qu'on est le plus efficace avec une quantité d'argent déterminée. Si on doit passer à la lutte, ça devient vraiment exorbitant et on ne s'en sort plus.
Pierre-Henri Gouillon, à Paris, on a vraiment l'impression que cet aspect-là de la question de la biodiversité, la question des espèces envahissantes, c'est vraiment un gros morceau, un gros problème. Est-ce que vous le voyez comme ça, vous aussi?
Je pense qu'en tout, les problèmes, vous voyez, le point commun de tous les problèmes qu'on a évoqués aujourd'hui, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire que qu'il y ait des envahisseurs, ça ne serait pas grave en soi si jamais il n'y en a pas tant que ça. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire qu'évidemment, il y a des envahisseurs qu'on aime bien, c'est des plantes cultivées quand même. Heureusement, on a pu faire établir chez nous des plantes qui venaient d'ailleurs et qui nous nourrissent.
Ouais, la tomate, donc, par exemple.
Mais là aussi, autres, oui. dans le domaine agricole, c'est la vitesse à laquelle on fait les changements qui est catastrophique. Vous voyez, on est en train de perdre toute la diversité aussi des plantes cultivées. Vous voyez, ça fait partie aussi de la biodiversité. Donc, le fait qu'on ne se donne pas le temps de laisser un petit peu les fonctionnements des systèmes agir et qu'on mette partout des envahisseurs, qu'on change tous les systèmes agricoles du jour au lendemain avec des politiques agricoles qui n'arrêtent pas de changer, etc. Ça, il est clair que c'est catastrophique. Et si on veut... si on veut arriver à arranger tout ça, la première chose à faire, ça sera d'obliger tous les systèmes économiques qui jouent là-dessus à se donner un peu plus de temps. Le malheur, c'est que pour le moment, notre économie, elle n'a pas l'air d'être partie dans cette direction-là.
Étienne Brancard à Liège voulait encore réagir par rapport au phragmite pour dire que finalement, nous, en Europe, on l'aime bien, le roseau commun, le phragmite, c'est vraiment une espèce clé de voûte de nos milieux aquatiques. Il y a énormément d'espèces d'oiseaux qui nichent dedans et c'est vraiment une espèce très très importante pour nos milieux aquatiques. Et donc tout le problème des espèces exotiques envahissantes, c'est vraiment quand on les déplace hors de leur aire de distribution naturelle et qu'on vient les introduire dans un environnement où ils n'ont pas du tout évolué auparavant. Et on les introduit souvent sans leurs ennemis naturels. Et de ce fait-là, on a une croissance explosive de leur population et ils présentent des comportements alors... qui peuvent mettre à mal les écosystèmes.
Alors on s'en va déjà vers la fin de cette émission spéciale sur la biodiversité. Je demanderai à chacun de mes collègues animateurs de poser peut-être une toute dernière question à leur invité, à leur spécialiste. Alors allons-y, on y va avec la Suisse, Jean-Christophe Vier, donc Nancy Ypsilantis. Vous allez poser la question de conclusion à votre invité.
Mais je n'ai pas de question à lui poser parce que la réponse bout sur ses lèvres, c'est visible. Jean-Christophe Vier.
Non, je voulais juste dire une chose, c'est que par rapport à une controverse qui surgit un petit peu, c'est qu'on l'a surtout vu après Copenhague pour le changement climatique. Il y a une phase de déni qui s'installe sur les problèmes environnementaux d'une façon générale. Et pour moi, c'est assez préoccupant. On a la même chose avec les pertes de biodiversité. Et je pense qu'il est important maintenant de reconnaître et d'accepter comme un fait qu'on est en train de vivre des changements radicaux, y compris climatiques, induits par l'homme, qu'on est en train de vivre une perte de la biodiversité. Il y a la semaine dernière dans Science, on a quand même un article d'une 8 pages de noms de scientifiques qui ont quand même écrit disant voilà, maintenant on a suffisamment de base scientifique pour dire que les changements climatiques c'est une réalité, il faut arrêter de rentrer dans cette phase de déni qui n'apporte rien.
Alors Jacques-Olivier à Liège, l'émission Semences de Curieux de la radio-télévision belge de la communauté française, votre invité expert était Étienne Brancard, il a certainement un mot de conclusion.
Oui, je lui laisse la parole. Je voulais dire, pour rebondir sur la question des changements climatiques, on l'a vu tout au cours de l'émission, finalement, la biodiversité, c'est un concept qui n'est pas facile à appréhender, pas facile à mesurer. Il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de niveaux différents. Et finalement, c'est peut-être là que se situe la difficulté, c'est qu'on n'a pas de Dow Jones de la biodiversité, on n'a pas d'indicateur simple. Pour le climat, on peut mesurer des concentrations de CO2, on voit le thermomètre et la température qui augmentent. Pour la biodiversité, c'est plus compliqué, mais c'est tout aussi important et notre vie en dépend tout aussi étroitement.
Mathieu Vidard à Paris, la tête au carré.
Même chose, je vais laisser la parole à Pierre-Henri Gouillon pour cette conclusion.
Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, on est dans une période où il est difficile de faire passer des messages parce qu'il est facile de les faire passer dans un premier temps tant qu'ils ne sont pas trop inquiétants. Et une fois que ça devient vrai, on a l'impression que les gens se jettent sur le premier charlatan venu qui veut bien dire qu'il n'y a pas de problème. On a un ancien ministre, un ancien scientifique en France qui a fait profession de ça actuellement pour dire qu'il n'y a pas de problème. Je voudrais vous dire qu'il y a au moins des domaines dans lesquels on voit très très bien comment on traite mal la biodiversité actuellement, où on sait en gros ce qu'il faut faire et où on le fait pas parce que on a un système économique qui le permet pas. C'est le problème des semences cultivées. Alors les plantes cultivées, typiquement, eh bien, il y a une très grande diversité. Elle s'est fabriquée par la sélection naturelle d'abord, la sélection des agriculteurs ensuite. Et puis aujourd'hui, on laisse faire d'immenses firmes qui brevettent des gènes là-dedans et qui s'approprient toutes ces ressources et qui les détruisent. Donc en fait, il y a des tas de cas où on sait très bien ce qui se passe, on sait ce qu'il faut, mais où pour le moment, notre système ne permet pas d'agir contre. Alors je pense que la prise prise de conscience est très nécessaire. Effectivement, il faudrait éviter d'en arriver au point où les gens sont tellement inquiets qu'ils se jettent sur n'importe quel discours qui les rassure. Mais en même temps, il faut vraiment faire comprendre que pour le moment, il commence à y avoir urgence. Urgence de conserver les services écologiques dans les milieux naturels, urgence de conserver la diversité des plantes cultivées qui quand même est nécessaire pour nourrir toute l'humanité. Donc je pense que c'est ça la difficulté de communiquer pour nous scientifiques à l'heure actuelle, c'est comment dire aux gens qu'il y a urgence sans qu'ils aient tellement peur que du coup ils ne veulent plus l'entendre parler.
Les OGM, plantes invasives modernes.
Et surtout brevetées, c'est-à-dire qu'elles sont... C'est une manière d'envahir extraordinaire, puisqu'il suffit qu'une plante OGM pollinise une autre plante pas OGM pour que la descendance de la plante pas OGM devienne OGM et du coup devienne brevetée et du coup ne puisse plus être exploitée par l'agriculteur. Il y a un problème de maintien de la diversité absolument effroyable dans ces technologies à l'heure actuelle.
Et pour terminer donc ici en studio à Montréal, Jacques Prescott, vos mots de conclusion après cette spéciale biodiversité?
On le voit bien que c'est l'argent qui mène le monde et puis que l'économie semble dominer le discours quotidien. Il est important pour les conservateurs de la biodiversité d'aborder la valeur de la biodiversité et des services écosystémiques pour pouvoir discuter avec les grands décideurs qui, eux, sont obnubilés par les gains à court terme qu'ils voient dans l'exploitation tous azimuts des ressources naturelles. Alors, il nous faut donc aborder cette relation entre l'économie et la nature tout en démontrant justement les avantages d'une protection éclairée, d'une exploitation judicieuse de ces ressources du vivant.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques Prescott. Et voilà, c'est la fin de cette émission spéciale des radios francophones publiques réalisée pour marquer l'année internationale de la biodiversité, la journée mondiale de la biodiversité. Merci à mes camarades animateurs Jacques-Olivier à Liège pour Semence de Curieux, la radio-télévision belge de la communauté française. Au revoir Jacques.
Au revoir Yannick et à une prochaine fois.
Mathieu Vidard à Paris, animateur de La Tête au Carré sur France Inter. Au revoir.
À bientôt Yannick et venez nager parmi nos méduses.
On espère aller en Corse bientôt. Et Nancy Psilantis à Lausanne, animatrice du magazine Impatience de la radio-télévision suisse. Au revoir Nancy.
Au revoir, merci à tous.
Et merci donc alors aux techniciens qui ont permis cette émission à Paris, Sophie Moreno à Lausanne, Frédéric Collère à Liège, Pascal Vaussen et à Montréal, Marie-Claude Picard. Merci aux journalistes Chantal Srivastava à Montréal, Pascaline Minet à Lausanne, Stéphane Combe à Paris, Jacques Olivier, animateur et aussi journaliste à Liège. Et merci aussi aux réalisateurs et réalisatrices qui ont permis cette émission. Violaine Ballet à Paris, Dominique Lapointe à Montréal, Jean-Daniel Mottet à Lausanne et encore une fois Jacques-Olivier à Liège. Merci à tous, au revoir, à une prochaine.